FM, la rediff.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors AVS, tous les jours, ça veut dire à votre santé. Alors aujourd'hui, on va dire à votre surprise, mon invité, le docteur Christophe Hague. J'ai failli pas le dire. Bonjour Christophe, comment allez-vous?
Bonjour Philippe, super, chaque fois que je vous vois.
Voilà, ça c'est une bonne surprise. Vous êtes professeur HDR à Lyon. Alors HDR, c'est le plus haut grade. Hein.
Ouais, c'est le terminus de la fac. C'est après, on éteint la lumière et tout le monde doit sortir de l'enceinte.
Donc à Lyon Business School, vous êtes chercheur en psychologie sociale. Votre spécialité à vous, ce sont les émotions dont vous explorez l'univers infini avec passion, mais aussi méticulosité, écrivez-vous. Et depuis plus de 15 ans, vous êtes le spécialiste français de cette forme d'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnel,
ouais.
Et vous contribuez à infuser cette idée dans la société française.
Surtout
qui
en
prend
ce
du temps, mais quand on regarde d'où vous partez, maintenant tout le monde parle d'intelligence émotionnelle.
Ouais, c'est un travail de fond, c'est un marathon, mais quand on voit ce qu'on vit actuellement, avec cette crise qui est autant économique que psychologique, il y a une situation qui est quand même, ça bulle émotionnellement, les gens n'ont pas forcément les outils pour réguler leurs angoisses, leur stress, etc. Donc moi, je pense qu'il faut maintenant être dans le concret. Donc mes livres, les outils que je développe de manière scientifique sont là pour aider concrètement les gens. Moi, il y a une dimension pragmatique. Je viens d'un petit village au fin fond de l'Alsace, une famille qui était dans le milieu agricole. J'ai ce côté très terrain. Donc maintenant, c'est comment on peut concrètement, une fois qu'on a sensibilisé les individus sur l'importance des émotions, comment on peut les aider dans leur quotidien.
Il y a des exemples concrets dans votre livre. Alors, si vous vous demandez comment négocier avec vos enfants, on verra tout à l'heure. Vous, c'est un de vos objectifs, hein, c'est de rendre les découvertes scientifiques accessibles. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un simplexologue peut-être.
Ouais, voilà, on peut dire ça, c'est joli.
Ouais. Ouais, mais en fait, pas un banalisateur. Et ça, non. Vous y tenez, parce que.
Non, parce que alors, je travaille beaucoup avec des neuroscientifiques. Je fais beaucoup d'études en psychologie sociale, etc. On utilise des modèles statistiques très complexes. Mais à la fin, le conseil, lui, doit être simple. Et moi, je suis un peu dans le courant. Je sais pas si vous vous souvenez de ce paléontologue célèbre qui faisait des pages dans Le Monde, qui s'appelait Stephen Jay Gould. Il disait une chose, moi, qui m'a toujours marqué. Il disait, la vie préfère souvent la simplicité à la complexité. Et je crois que les choses les plus simples sont les plus élémentaires pour le genre humain. Quand j'écris un bouquin, quand je donne une conf, quand je passe à la télé, la radio, etc., souvent j'ai un petit, voilà, mes petites fiches, etc. Et je m'entraîne un petit peu avec ma fille qui aujourd'hui a 11 ans. Et je lui dis, est-ce que tu comprends ce que je raconte? Et s'il y a un point qu'elle ne comprend pas, je réécris. Parce que je suis intimement convaincu que, à force de vouloir tout complexifier, au nom d'un esthétisme dans le langage, dans la modélisation, etc., on se perd. Et souvent, moi, j'ai rencontré des gens qui ont écrit des best-sellers, qui sont des chercheurs dans certains domaines, et quand je leur dis, tu peux me pitcher ton bouquin, ils me le pitchent, et je leur dis, écoute, j'ai pas tout compris. Ils font plusieurs versions de leur pitch, et à la 10e version, ils me disent, écoute, en fait, je crois que ce que j'écris et ce que je raconte dans mes cours, en fait, je le comprends pas moi-même. J'étais, ok, bon, bah, allez, viens, on va.
Ouais, mais si c'est complexe,
on va boire un coup.
Ça a l'air intelligent.
Ouais, voilà, ça a l'air. Mais c'est pas forcément la réalité, c'est pas forcément la vérité de la vie.
Donc, simplexité. Je prends cet exemple parce qu'un jour vous êtes piqué par un article de Télérama,
ouais,
qui vous accuse de banalité.
Ouais, alors moi je l'ai pris comme un compliment.
Ouais, après vous dites oui, mais ça c'est parce que vous êtes un, voilà, vous êtes
un optimiste.
Voilà, vous travaillez sur les émotions.
Non, parce que vraiment, enfin, ouais, mais au-delà de ça, j'ai vraiment pris parce que l'article n'était pas trop corrosif. Simplement, la journaliste disait, mais en fait, ce que vous racontez, c'est oui, c'est simple en fait. Et moi, je l'entends, oui, c'est simple comme de l'eau de roche. Et je me dis, bah oui, les gens, ils comprennent ce qu'on raconte. Et si vous voulez donner des conseils aux personnes et que les personnes l'appliquent dans leur quotidien, il faut que ce soit digeste. Il ne faut pas rentrer dans un truc matriciel, un machin avec je ne sais pas combien de concepts dans le concept dans le concept. On les perd. Donc moi, mon travail, c'est effectivement non seulement essayer de faire de la recherche de bon niveau, mais en plus, derrière, se dire, bah, de tout ça, il y a des outils concrets qui peuvent être produits pour aider les gens.
Bien. Des outils, vous avez contribué à en élaborer quelques-uns. Hein. Mmh. Vous êtes le co-auteur d'un test QE, coefficient
émotionnel. Donc, comme le QI est la mesure de l'intelligence analytique, le QE quotient émotionnel, c'est la mesure métrique de l'intelligence émotionnelle. Et il se trouve que très récemment, c'est tout chaud, ça sort du micro-ondes, on vient de publier un papier de validation d'un test d'intelligence émotionnelle pour tout le monde. Parce que le QE Pro, lui, il est spécifiquement dédié aux dirigeants, aux managers, parce qu'on voilà, on voulait un peu aller dans le monde de l'entreprise. Et le QEG, G pour généraliste, lui, il s'adresse à toute personne âgée de 18 ans et plus. Et c'est cool parce que on met à peine 25 minutes à le passer. Et quand vous passez ce test-là qui est fiable, c'est un test dit de performance. C'est-à-dire, à un moment, il y a des réponses, il y a des logiques émotionnelles. Bah, soit vous comprenez ces logiques, soit vous les comprenez pas. Et en 25 minutes, eh bien, vous avez à la fin un profil émotionnel qui est dressé de vous. Vous avez 11 scores. Vous avez une espèce de photographie vous concernant votre rapport avec les émotions. Et vous pouvez partir de cette photographie, eh bien, pour renforcer tel ou tel type de dimension. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est extraordinaire. Ça a tout un tas de bénéfices quand on est dans ce registre-là. On sait que quand vous développez votre intelligence émotionnelle, eh ben, vous gérez mieux votre stress, vous prenez de meilleures décisions, notamment dans des situations complexes à enjeu, vous augmentez de la qualité de la relation à l'autre, vous avez moins de mots MAX, de tête, de ventre, de dos, vous êtes moins toxique, vous avez une satisfaction de vie qui est supérieure, vous êtes moins addict à l'alcool, à des drogues dures, vous avez une employabilité pour tous ceux qui cherchent un boulot plus forte que la moyenne, et vous êtes moins toxique
pour
autrui.
Alors en ce moment, c'est important parce que à l'heure de l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer certaines tâches, c'est important de pouvoir justement pouvoir occuper d'autres tâches que la machine ne pourra pas remplacer.
Et ça, c'est intéressant parce que l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle, il y a des études qui montrent, notamment des sondages d'IBM, il y avait le forum de Davos, etc., qui montrent que quel est le top 3 des compétences à acquérir pour l'être humain, face à cet essor-là de l'IA, flexibilité mentale, aisance analytique et intelligence émotionnelle. Donc, dans le triptyque des compétences clés à acquérir aujourd'hui et demain, dans un futur proche, face à l'IA, face à la redéfinition de la société par l'IA, eh bien, il y a l'intelligence émotionnelle.
Bon, alors, si vous voulez passer le test, attention, c'est payant, hein, je vous le dis.
Ouais. Alors, c'est normal parce que tous les tests sérieux, je le dis maintenant, tous les tests sérieux en psychométrie sont payants parce que s'il était rendu gratuit, accessible à tous, on aurait un phénomène assez étrange qui serait le suivant, c'est que, par exemple, les parents entraîneraient leur gamin à la bonne réponse. Et donc nous, en tant que chercheurs,
parce que tu peux le repasser autant de fois que tu veux.
Et ben c'est ça. Ouais. Et donc du coup, et ben derrière, nous on mesurerait plus une capacité mentale, on mesurerait un apprentissage. Donc on parle plus d'intelligence.
Non, je le dis pour tous ceux qui vont faire le test après l'émission, que c'est pas de la pub qu'on fait, mais le test existe. Mais voilà, voilà, il faut le payer. Et puis alors vous aussi, pour bien vous comprendre, mais ça on en a déjà parlé, vous croyez en la thératologie. Pourquoi?
Bah moi j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. J'aime bien étudier les situations extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien. Et c'est vrai, par exemple, je prends l'exemple du dernier bouquin sur la surprise. J'ai fait une rencontre assez extraordinaire à nouveau dans ce bouquin et j'ai échangé pendant à peu près un an et demi avec Damien Nichols et sa femme Laurie. Et il se trouve que Damien Nichols, pour raconter rapidement son histoire...
C'est le prétexte de votre livre, d'ailleurs.
Il est devenu la ligne verte, vous allez comprendre pourquoi. Mais Damien Nichols, en 1993, il y a la police qui débarque chez lui, qui l'arrête et qui l'accuse, avec un de ses meilleurs amis et une connaissance, d'un triple homicide. Donc, meurtre de 3 gamins de 8 ans. Et Damien Nichols... Et ben donc il est surpris par ce qui lui arrive et il se trouve qu'il a le look à l'époque du coupable idéal. On est dans les années 90, il y a une panique satanique aux États-Unis, il y a des grands noms de la criminalité, hein, des tueurs en série, Jeffrey Dahmer, etc., qui font la une des médias. Donc vous avez tous les États-Unis là qui ont peur en fait. Les parents américains ont peur que leur gamin se fasse enlever par ce type d'individu. Et donc lui, il a look parce que il lit du Stephen King, il écoute du Metallica, il est habillé comme Neo dans Matrix avec voilà. Et en plus, il vient des quartiers pauvres. Bref, il a pas de quoi se défendre. Et donc il est accusé et le 19 mars 1994, il est condamné à la peine capitale. Donc on l'envoie dans le couloir de la mort. Et ce qui est fou, je m'en suis rendu compte hier lors d'une interview, c'est que ce 19 mars 1994, moi je fêtais mes 15 ans en Alsace. J'étais, il y avait un
c'est baigné, votre date, c'est votre date anniversaire.
Le 19 mars. Ouais. Un beignet dans le soleil. J'étais avec mes meilleurs amis. J'ai passé une journée mémorable. Et quand moi je vivais quelque chose de solaire, de lumineux, lui à ce moment-là, le sol se dérobait sous ses pieds. Il vivait la crasse. Et il se retrouve dans le couloir de la mort. Et en 2003, il est envoyé dans une prison extrêmement dure où il verra même plus finalement le soleil.
Il n'y a plus de fenêtre. Ouais.
Le ciel, il est dans une pièce, dans une cellule où il fait deux pas, il va d'un mur à l'autre. Et bon, bref, très compliqué. Sauf que, en 1996, HBO sort un doc, ils avaient filmé tout le procès, ils disent, bah, attends, c'est fou, c'est à charge, en fait, tout ce qu'il y a sur ce gamin-là. Il a 18 ans, hein, quand il rentre dans le couloir de la mort. Il dit, c'est pas possible. Donc, bref, il y a tout Hollywood qui se met à le soutenir. En 1999, il épouse sa femme Laurie, qui est absolument pas une détraquée. C'est une architecte qui bossait à New York avec des célébrités, qui, en fait, elle rentre en empathie avec lui.
Pas détraquée, enfin, vous dites qu'ils se sont écrits 5000 lettres.
Ouais, mais au début.
C'est quand même, c'est beaucoup 5000 lettres. Quand
ouais,
vous
mais,
pensez, c'est
alors, dure, ouais, mais sur 18 ans.
Ouais, voilà.
Il y a ça à 18 ans, c'est beaucoup. Et en fait, il y a ce côté, elle ressentait ce que lui ressentait. À son adolescence, elle avait des points communs avec lui, plein de choses. Et commence à lui écrire, mais de manière très amicale, parce qu'elle avait vu le doc d'HBO où ça l'avait vraiment cogné fort psychiquement. Donc elle voulait aider en fait ce gars au départ.
Sauf qu'elle embrasse la lettre qu'elle lui envoie.
Alors ça, voilà, il y a ce côté, mais il y a un truc, il y a un crush. C'est un crush particulier. Ils sont toujours ensemble, ils sont mariés, ils sont heureux. Moi, je les ai régulièrement par message, et je vous assure, c'est un couple très surprenant et cohérent en fait. Il y a une cohérence dans ces situations absurdes qu'ils ont vécues. Et il se trouve qu'en 2011, il y a un espèce de texte de loi bizarre dans la législation américaine, un plaidoyer Alford, qui fait qu'en gros, au vu des évidences apportées par les avocats de Damien Nichols, ben, moi, on dit, ok, bon, il y a de fortes probabilités que le type soit quand même globalement innocent. Mais vu que là-bas, le procureur et le juge sont des élus, veulent pas perdre la face, donc ils le font signer ce papier, qui, en gros, lui dit, ok, ben, assume que t'as passé 18 ans, tu vas pas nous poursuivre, on va pas te compenser.
Tu reconnais que t'es coupable, en fait.
Et tu reconnais que t'es coupable aux yeux de la, mais en même temps, on te libère sur le champ et tu peux aller clamer ton innocence à l'extérieur. Et fait extraordinaire, parce qu'on se rencontre aujourd'hui, Philippe, il y a quelques jours, la Cour suprême de l'Arkansas a dit ok, donc quasi 15 ans après sa libération, à dire ok, là il y a tellement d'évidence, notamment sur des prélèvements ADN, on réouvre le dossier, ce cold case, et maintenant on veut vraiment trouver le meurtrier. Et juste, qu'est-ce que nous apprend Damien Nichols, entre autres, je le prononce à l'américaine, Damien.
Non, mais allez-y.
Mais Damien Nichols, il dit la chose suivante, en tout cas, c'est ce qu'il porte en lui, c'est que le fait d'apprivoiser ses émotions, et notamment la surprise, eh bien, ça fait que la crasse, le toxique, l'insoutenable ne vous brise pas. Et Damien Nichols, aujourd'hui, moi je le compare, comme tous les individus QE++ avec un quotient émotionnel élevé, parce qu'il a lu plus de 2000 bouquins sur le sujet, etc., je les compare à des tardigrades. Vous savez, cette créature-là de moins d'un millimètre, alors c'est pas très glorieux visuellement, mais qui est capable de résister à des températures élevées et basses, à tout un tas de conditions extrêmes, bah lui, il est comme le tardigrade, il est devenu extrémophile. Grâce à son intelligence émotionnelle, il est capable de se tirer de plein de situations où ça bulle émotionnellement fort et qui sont très compliquées.
Et aujourd'hui, il fait des conférences sur le développement personnel.
Et il écrit des livres, notamment certains qui sont devenus des best-sellers classés dans le top 50 du New York Times.
Bien, le docteur Christophe Hague est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Christophe Hack, qui est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, s'appelle Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, chez Albin Michel. Vous tournez autour de la question de l'intelligence émotionnelle et vous l'abordez cette fois-ci sous l'angle de la surprise. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a le hockey?
On lui fait bouh, on lui fait peur et on espère que derrière ça enlève
le hockey. Disparaisse.
Mais la surprise, elle a la même propriété, c'est-à-dire que quand on est surpris dans la vie, ça enlève nos hicks de la vie. La surprise, elle permet de nous tirer de plein de situations, de nous adapter à des situations critiques. Parce que ce qui est intéressant avec cette émotion, on parle d'une émotion.
Alors c'est une émotion. Déjà, tout le monde ne sait pas que la surprise est une émotion. Voilà. Et pourtant, vous dites que ça fait partie des 7 émotions
de base.
De base. Ouais.
Donc elle est, ouais, comme la colère, la tristesse, la joie, elle fait partie de cette bande-là. Sauf que c'est la seule émotion qui peut être à la fois plaisante et déplaisante. Agréable et désagréable. Parce que la colère, plutôt désagréable, la joie, agréable. Mmh. Elle est un peu les deux. C'est l'émotion aussi la plus brève du lot. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette émotion, elle vient rarement, elle s'invite rarement dans votre cerveau seule. Elle est pas célibataire, elle est souvent accompagnée, elle emmène dans son sillage, elle embarque dans son sillage d'autres émotions. Et ces émotions-là, parce que les émotions, c'est des informateurs, c'est des panneaux signalétiques qui vous disent « Attends, il va se passer un truc, c'est comme un panneau signalétique avant un virage dangereux, attends, il va se passer quelque chose dans un futur proche. » Et un quelque chose qui peut avoir un impact sur notre niveau de bien-être, le niveau du bien-être des gens autour de nous, etc. Et donc, parce qu'elle vient accompagner dans notre tête, avec d'autres émotions, eh bien, ça va venir affiner le grain de l'analyse de la situation. Et ce qui est fou, c'est que l'émotion, elle nous permet vraiment de nous adapter. Parce que derrière, elle va booster en fait notre envie de comprendre ce qui est en train de se tramer. Et c'est elle qui est vraiment, elle est l'essence dans le moteur de la soif de comprendre. Mmh. Et ça, c'est intéressant parce que c'est elle qui nous permet d'évoluer. Edgar Morin, qui est un des parrains du bouquin, disait c'est l'étonnement, la surprise qui nous oblige à évoluer. Et 70% des Français que j'ai interrogés sont d'accord avec cette affirmation. Et c'est vrai, parce que il y a une anecdote dans le bouquin, moi je commence le livre avec ça, avec un certain Laurent. Et Laurent, moi je suis professeur à l'EM Lyon, et il se trouve qu'à un moment, je voulais aller dans mon bureau récupérer 2-3 documents, mais un passage éclair, 5 minutes, et là j'ai un type qui m'attend. Et le type est plutôt sympa, même si le faciès me fait penser à Rogozine, qui est un espèce d'ultra-nationaliste russe, donc qui est son sosie maléfique, son doppelganger. Mais il a quand même une bonhomie, ce Laurent, et je vois que j'ai un truc sympathique, et il me parle. Je dis, je suis désolé, j'ai 5 minutes, je vous connais pas, faut qu'on prenne rendez-vous, j'ai pas le temps. Bon bref, une heure plus tard, j'ai pas vu le temps passer, type était sympathique, il me dit, rendez-vous dans quelques jours.
Alors qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen, justement, pour que ça dure pas 5 minutes et que ça dure une heure?
Ah ben il était tout le temps, il me questionnait, et des questions surprises en fait. Je disais, bah tiens, là j'ai lu que vous avez fait, vous êtes intéressé là. Ah oui, vous travaillez un peu sur la tristesse. Mais le rôle positif de la tristesse, il allait m'interpeller sur des choses assez étonnantes. Je lui dis, tiens, ok, le gars a dû travailler un peu le dos, mais ça paraissait naturel dans
donc
la
c'est
discussion.
C'est fluide. Ouais.
Fluide.
Ouais.
Et donc il me dit, rendez-vous dans quelques jours. Quelques jours plus tard, il revient, c'est un autre jour. Là, j'étais en train de donner un cours, je suis à la pause de mon cours. Je le revois, je dis, c'est pas possible. Je dis, là, j'ai pas le temps, j'ai 5 minutes. J'ai le cours qui continue. Il fait, non, mais je te donne juste rendez-vous en fin d'après-midi. Je t'attendrai sur le parking de ton école. Je sors, il est à peu près 17h30. Et là, je vois Laurent, ça, adossé à une berline, une grande berline avec des vitres teintées. Et il dit, allez, on y va. Alors moi, j'étais suffisamment rassuré. Je lui dis, ok, le gars va sans doute pas me prélever un rein ou me kidnapper. Je sais pas, il y avait un truc. Et puis j'ai un côté un peu rock'n'roll aussi.
C'était dans les années 70 quand on enlevait
les
gens.
Non, il y a pas si longtemps que ça finalement. Et donc, je rentre dans la voiture. Et là, dans la voiture, il y a un gars à l'arrière de la voiture. Il me tend la main, il me fait bonjour Thierry. Je dis bonjour Christophe. Et je dis Thierry, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit j'en sais foutre rien. On fait 1h30 de route. On arrive dans un espèce de relais château. Et là, il y a des gens en costume cravate. Laurent nous amène dans une salle. Il prend deux feuilles qu'il place en chevalet. Il met nos noms dessus. Et là, il prend le micro. Il rameute les troupes. Et là, il dit, donc là, je comprends que je suis face à des dirigeants, en fait. Et là, il prend le micro. Il dit, bon, bah, écoutez, on a la joie et la surprise d'avoir ce soir Christophe Hag qui vient nous donner une conférence sur l'intelligence émotionnelle et les nouvelles tech. Et vous avez Thierry Regon, je le cite là, un patron assez connu dans la région lyonnaise, qui va témoigner de sa pratique de dirigeant et de son rapport aux émotions. Et là, je dis, waouh, quand même, le gars, il m'a amené jusque-là.
Comment il m'a hacké?
Il m'a hacké le cerveau. Et il se trouve que, donc, la conférence se passe très bien et tout. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça spontané. Et à la fin de la conf, il y a le cocktail. Et là, il vient me voir et fait, t'as compris le métier que je fais? Et là, je le regarde, je dis, je crois. Et je lui dis, bureau des légendes. Il fait, c'est ça. Bon, bref. Donc je vais pas donner son métier précis, mais
ah bah non, bah ça, ah bah non, ça n'a pas d'intérêt. Alors là, non, ça n'a pas d'intérêt. C'est quoi son métier précis?
Bah, il est pas loin de ce que fait Mathieu Kassovitz dans le Bureau des légendes. Il a fait ça dans sa vie.
Il l'a fait, oui, il le fait.
Ah oui, il l'a fait, il a vécu ces choses-là. Et donc, il se trouve.
C'est comme ça qu'on a le pas de quelqu'un, en fait. C'est comme ça qu'on, voilà, qu'on n'a pas de quelqu'un avec qui on veut rentrer en contact, en fait.
Ouais, et en fait, il faut pas suivre l'individu, il faut aller vers l'individu. C'est-à-dire, souvent, on se dit, tiens, il y a des gens qui vous suivent, il y a une filature, etc. Non, il faut pas être derrière la cible. Il faut aller à la rencontre de la cible, et là, ça paraît plus.
Faut pas se cacher, c'est ça que
vous voulez. Faut pas se cacher. Et ce qui est fou, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin, c'est on rentre tard le soir, donc il raccompagne Thierry et moi à nos domiciles. Il est super tard, dans la nuit. Et là, je me dis, j'ai une envie comme ça irrépressible de revoir le film de Fincher, The Game, avec Michael Douglas, un film que j'ai adoré, et qui montre la vie d'un gars qui est un chef d'entreprise, un magnat de la finance, mais qui déteste la surprise. Il exècre la surprise, il veut une routine, il veut tout standardiser, tout anticiper, tout mettre sous algorithme, mais il a une vie sociale pauvre, sa femme l'a quitté, il est dépressif à souhait, etc. Et je regarde ce film, et sans spoiler, mais bon, à la fin, parce qu'il va aller de surprise en surprise.
C'est son frère qui lui fait un cadeau.
Ouais, il lui fait un cadeau, il lui dit, tu vas jouer à un jeu. Et un jeu grandeur nature, réel.
The Game.
Ouais. Et ce jeu va l'amener de surprise en surprise, et ça va en fait le réveiller, ça va le secouer. Et je me dis, en voyant ce film, je dis, mais en fait, la surprise, ça permet la catharsis, ça permet la renaissance. Et là me vient, et je finis avec ça, cette réplique de Diaghilev à Cocteau à l'époque. Les deux sont place de la Concorde. Cocteau n'est pas le Cocteau qu'on connaît encore, mais Cocteau est en train, un jeune loup qui essaye d'alpaguer des célébrités de l'époque pour se faire son réseau et être connu. Et donc, il est au basque de Diaghilev, qui est cet impresario de ballet russe connu. Ils sont à la place de la Concorde, et Diaghilev, pour un peu se débarrasser de Cocteau, lui dit « Jean, étonne-moi ». Donc en gros, regagne tes pénates et essaye de me surprendre. Et Cocteau écrira plus tard « De cette minute, je décidais de mourir et de revivre ». La surprise, ça permet la renaissance. Tout souffle, c'est souffle. La surprise, c'est la pièce qu'on met dans la machine de notre cerveau pour repartir de l'avant, pour récupérer cet élan vital, cette motivation. Et là, d'un coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Et la surprise, en plus, c'est une des émotions les moins étudiées. On a commencé à l'étudier sérieusement dans les laboratoires de neurosciences sociales, allez, fin des années 80. Donc, je me suis dit, attends, là, il y a un sujet. On va raconter des histoires récréatives pour les gens. Et à partir de ces histoires-là, on va essayer de générer des conseils que je vais trianguler, que je vais vérifier avec l'apport des neurosciences sociales, de travaux en psychologie, etc.
Ouais, et comme toujours, vous faites des enquêtes, vous interrogez les gens. C'est le principe.
Ouais.
Il y a une idée reçue, c'est que le cerveau aime la routine. Et que finalement, la surprise s'emmerde, le cerveau, il aime bien faire ce qu'il sait faire et très bien, et tous les jours, il va le refaire, parce qu'il économise de l'énergie. Et vous vous dites que non.
Non.
Le cerveau n'est pas fait pour la routine.
Alors le cerveau, il aime la routine quand c'est vraiment sur des choses très sécuritaires. Mais vraiment des trucs très 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 avoir un toit, etc. En revanche, le cerveau a besoin de nouvelles expériences, et j'ai dans le livre fait appel à Pierre-Marie Liedo, qui est le directeur du département des neurosciences de l'Institut Pasteur, qui est le papa de la plasticité cérébrale neurogénèse, qui est une des plus grandes découvertes en neurosciences de ces dernières années, qui démontre que à tout âge on peut développer des choses dans son cerveau, bref, pour faire court,
contrairement à ce qu'on pensait
avant.
Jusqu'à la fin on crée des déconnexions,
Et notre cerveau, il a cette appétence, en fait il a besoin d'être nourri, sinon la machinerie cérébrale elle s'enraye. Et le cerveau, c'est quand même le seul organe du corps dont la mission principale, c'est l'adaptation. Donc lui, il a besoin, en fait, d'être nourri. C'est comme un Mbappé, il a besoin d'être sur le terrain, petit message à son coach, pour être finalement performant. Il a besoin de ça, le cerveau humain. Et donc, je trouve qu'on est dans une société où on ne nourrit pas assez notre cerveau. On veut tout anticiper, tout mettre sous algorithme, sous équation, etc. Alors que tout ça nous dessert, en fait. Ça enraye la machine, et quelque part, ça fait perdre du temps de réactivité et, on va dire, de l'analyse fine au cerveau. Donc moi, je milite pour réintroduire cette espèce en voie de disparition qui est la surprise, surtout que la surprise, c'est bon. C'est bon pour la santé aussi.
Ouais.
C'est bon pour la santé psychique, physique. Il y a des études à Berkeley, assez extraordinaires, qui montrent que quand on ressent De l'émerveillement. L'émerveillement, c'est de la surprise au cube. C'est une surprise plus. Mmh. Quand on ressent régulièrement de l'émerveillement, c'est quand on est fortement impressionné par un
c'est
événement.
C'est l'effet waouh.
L'effet waouh. Et quand on va le chercher en plus, cet effet waouh, eh bien, des chercheurs à Berkeley ont montré que ça agissait directement sur la production. Une molécule qui est produite par les lymphocytes, qui à la base est importante pour se défendre des agressions vis-à-vis de l'organisme, qu'on appelle les interleukines 6, IL-6. Bien, si on a trop d'IL-6, on en produit trop de manière chronique, eh bien ça c'est pas bon. Ça vient atteindre le système immunitaire, ça va faire qu'on va être plus vulnérable à des inflammations aiguës et chroniques, et avec même des risques de cancer derrière. Quand on intègre la surprise dans son quotidien, on rééquilibre le taux de sécrétion d'interleukine et on revient un petit peu à l'équilibre là-dessus et on préserve en fait ses défenses immunitaires et on est moins sujet à risque par rapport à ce que je vous disais précédemment. Donc ça c'est extraordinaire et en plus on apprend plus vite. Vous avez des études en laboratoire qui montrent que sous l'effet de la noradrénaline qui est produite quand on ressent notamment une mauvaise surprise, eh bien là, ça vient atteindre votre cerveau. Donc il y a des modifications de certains fonctionnements cérébraux, certaines zones qui vont être plus activées, d'autres qui vont être sous-activées. Ça va venir modifier votre comportement. Et les chercheurs concluent par ça, ils disent, en fait, ça accélère votre apprentissage et vous apprenez mieux et plus vite de la situation surprenante.
Tiens, vous l'avez votre livre? Non, je vous le donne. Non, c'est pour le montrer, le pouvoir de la surprise.
Voilà, c'est ça.
Même mauvaise, chez Albin Michel, Christophe Hag et notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on parle d'une émotion, la surprise ce matin avec mon invité qui publie Le pouvoir de la surprise, même mauvaise, chez Albin Michel, Christophe Hag est notre invité. On oppose souvent surprise à ennui.
Alors, moi je prends toujours cette image, Batman combat le Joker, Superman combattait Lex Luthor. La surprise, elle a aussi son super vilain, et son super vilain, c'est l'ennui chronique. Et la routine, parce que l'ennui occasionnel, c'est bon pour le cerveau. C'est de la bonne matière, ça permet au cerveau de vagabonder, d'avoir plus de lucidité de soi, ça a même un impact sur la santé. En revanche, quand ça s'invite de manière chronique dans le quotidien, là ça amène à expérimenter des troubles dépressifs, troubles alimentaires, perte de l'estime de soi, moins de satisfaction dans la vie, etc. Donc la surprise, elle combat ça. Et en plus, on sait que quand on est sous l'effet de la routine et de l'ennui chronique, on produit moins de nouveaux neurones. Alors que quand on invite la surprise dans notre vie, ça aide au développement cérébral. Donc on évolue, quand Edgar Morin dit oui, ça nous oblige à évoluer la surprise, c'est vrai, d'un point de vue neurologique, on se transforme, on renforce certains circuits neuronaux, on produit plus de nouveaux neurones, on devient quelqu'un qui va plus vers ses intentions, vers ses besoins, etc.
Edgar Morin, vous vous attendiez à ce qu'il participe à ce livre-là?
Alors, on avait
on va pas spoiler, mais est-ce que vous attendiez?
À la base, oui, sauf que, il y a eu des faits qui ont fait que, à un moment, il pouvait pas pour des raisons de santé, et c'était déjà le cas pour les deux précédents bouquins, où on devait faire quelque chose, il devait témoigner, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien sa philosophie de vie, j'aime bien le personnage, et à chaque fois, il y a eu des actes manqués. Et à un moment, je me suis dit, abandonne l'idée. Et là, à nouveau, c'est la surprise, j'ai mon amoureuse bretonne, Sarah, qui semble dire, lui écrit une lettre ouverte. Et cette lettre lui parvient. Et son assistante d'ailleurs dira plus tard, elle dira, en passant la lettre à Edgar Morin, elle dira, Edgar, voici, je te présente la lettre d'une amoureuse à son amoureux.
Oui, parce que c'est pas du tout une lettre classique.
Non, pas du tout.
Non.
Et donc là, elle explique,
je la publie
dans le bouquin. Vos auditeurs pourront la découvrir. Mais Edgar Morin est touché par cette lettre. Et là, il me recontacte, il dit, écoute, Christophe, là, faut qu'on arrête nos conneries, on va faire quelque chose ensemble. Et l'aventure reprend. Voilà, il remet une pièce dans la machine et ça fonctionne. Mais moi, j'ai été très touché par le fait qu'Edgar Morin, effectivement, devienne parrain du bouquin, s'implique là-dedans. Mais ce qui m'a encore plus touché, C'est cette lettre d'amour, qui est une vraie lettre d'amour, en l'occurrence, une preuve d'amour, et qui m'a totalement surpris. Et c'est ce que je dis aussi dans le livre, on n'écrit pas assez, finalement, à son partenaire ou sa partenaire. Et en faisant ça, en tentant de la surprendre ou de le surprendre par vraiment quelque chose qui est couché sur le papier, ça crée un impact dans le cerveau. Et en plus, ce qui est intéressant, on est toujours sur le registre de la santé, ça fait baisser le taux de cholestérol si vous écrivez plusieurs fois des lettres affectives à quelqu'un que vous aimez.
Ouais.
Et j'aborde d'ailleurs tout ce sujet de l'amour, du couple. Je fais appel dans le bouquin à John Gottman, qui est vraiment le grand pont en recherche sur tout ce qui est dynamique de couple, et un professeur en psychiatrie à Harvard, le professeur Schwartz. Et je leur ai dit, mais en fait, les surprises, ça vaut quelque chose ou pas dans le couple? Parce que j'avais fait un sondage avant, et j'avais 42% des Français qui me disaient, en fait, la surprise, ça aide absolument pas à entretenir la dynamique du couple. J'étais assez surpris par ça. Et après, je me dis, tiens, j'ai vu un autre chiffre, qui est celui de 46%. Vous savez à quoi ça correspond, 46%? Ça correspond au taux de divorcialité. Donc je me dis, peut-être que de pas introduire la surprise dans le couple, bah oui, peut-être que ça vient contribuer au taux de divorcialité. Et ce que me dit John Gottman et aussi le professeur Schwartz, c'est que quand on introduit la surprise, ça garantit pas la longévité du couple. En revanche, ça garantit une chose, c'est que l'autre ne va pas chercher la surprise dans les bras de quelqu'un d'autre. Et en même temps, ça maintient à jour, finalement, notre connaissance de l'autre. Parce que vous savez, quand vous avez deux bouches en haut, quatre yeux écarquillés, qui se font face sous l'effet de la surprise, parce que vous avez fait un zeste d'humour, parce que vous avez surpris l'autre en l'invitant à tel ou tel événement, parce que vous avez spontanément agi de telle ou telle sorte, et bien derrière, lorsque vous avez deux personnes surprises comme ça qui se font face, ça renvoie à quelque chose de primaire. Ça renvoie à une forme de nudité psychique. On se retrouve d'égal à égal. Et là, vous rentrez en fréquence d'intimité avec votre partenaire. Et là, l'autre va verbaliser ses nouvelles envies, ses nouvelles intentions. Donc vous n'êtes pas, d'un point de vue affectif, has-been vis-à-vis de l'autre. Parce que voilà, vous l'avez rencontré un instant T, peut-être il y a 10 ans, 15 ans. Ouais, mais entre-temps, cette personne-là a évolué sur plein de choses. Et si on n'a pas cette mise à jour, on perd pied et les chemins peuvent se séparer comme ça très rapidement.
Alors il y a même des surprisologues qui existent, mais on va pas expliquer en quoi ça consiste. On parlait de l'ennui. L'ennui peut gagner même la sphère professionnelle. Alors on parle beaucoup du burn-out, mais il y a aussi un autre phénomène qui est un peu moins étudié, mais qui depuis quelques années commence à avoir pignon sur rue, c'est le bore-out. Qu'est-ce que vous appelez le bore-out?
Eh ben c'est un syndrome, c'est un ennui chronique quand on est plus challengé dans son métier, quand on ressent de l'ennui de manière continuelle et qu'on est rongé en fait par tous les inconvénients de l'ennui, troubles psychosomatiques, troubles alimentaires, troubles digestifs, troubles du sommeil, etc. Et qu'on est totalement englué dans une situation où finalement on perd pied, plus rien ne nous motive réellement. Et derrière, c'est un cercle infernal, en fait. Il y a des gens qui plongent. C'est abyssal, en fait.
Oui, mais on peut s'ennuyer très vite dans son boulot, d'ailleurs.
Très vite, mais le problème, c'est que quand ça dure...
Quoi qu'on fasse, si c'est toujours la même chose qu'on fait, on finit par s'ennuyer.
On finit par s'ennuyer.
Même si vous avez le job le plus passionnant du monde, si vous êtes président de la République à vie, est-ce que vous finissez pas par vous ennuyer?
Alors après, il y a certains jobs, quand même, où on est amené à vivre d'autres choses. À aller conquérir d'autres territoires, à s'intéresser à d'autres thématiques. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, dans mon boulot. C'est-à-dire que les livres, à chaque fois, même s'il y a un fil conducteur, intelligence émotionnelle, etc., là, j'étudie une émotion particulière que je n'avais pas étudiée avant. Là, je suis en train d'écrire le prochain livre encore sur une autre thématique. Je m'étais intéressé à l'autre.
Mais finalement, est-ce que c'est pas le fait de faire toujours la même chose qui fait qu'on s'ennuie?
Alors, c'est en partie ça. Et le problème, c'est que quand ça devient, en plus, très ancré dans des process. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on va au boulot, on sait que là, on va avoir 15 étapes systématiquement à tiquer, comme ça, là, on tique la case. À chaque fois, on doit passer. Vous faites ça sur une période plus ou moins longue, à un moment, ça vient vous affecter très, très fort.
Mais comment on fait pour en sortir? Il y a des gens, dès le lundi, quand vous leur demandez comment ça va, ils vous disent comme un lundi, vivement vendredi. Donc, vous imaginez que la semaine peut être longue.
Alors, il y a plusieurs options. Il y a un moment, tenter effectivement de modifier des choses. On peut aller voir aussi, si on n'est pas en force dans l'entreprise, peut-être aller voir sa hiérarchie et dire, attends, j'ai besoin d'évoluer sur tel ou tel élément, parce que là, j'ai besoin de nouveaux challenges. Et vous pouvez avoir, ça a existe aussi en entreprise, un manager réceptif à votre demande et qui va modifier des choses. Si vraiment toutes vos demandes sont classées sans suite, voilà, lettre morte, etc., ben à un moment, il faut se poser la question de qu'est-ce que tu fais là ? À un moment, je veux bien que les gens disent qu'il y a des traites, il y a des crédits à payer.
Mais vous avez un CDI. Vous savez, le sacro-saint CDI.
Ouais, ouais. Ouais, mais vous avez un CDI professionnel, mais en l'occurrence, si vous êtes vraiment dans un univers où vous ennuyez fortement, bore out, par contre, vous n'avez pas un CDI de santé là. Là, c'est un CDD de bonne santé. Hein. Parce que, en gros, très clairement, je comprends, on a tous des prêts, des traites, on a pour certains des enfants à nourrir, il y a plein de choses de la vie, la situation économique elle est compliquée et tout. Mais à un moment, rester juste pour ces raisons économiques, englué dans une situation long-termiste où on ressent de l'ennui systématiquement, à un moment on met sa santé en danger. Donc au final, vous n'aurez rien gagné si vous êtes burn-outé jusqu'à l'os, vous retrouvez en clinique, médicamenté, etc., avec une perte de phonation, une perte de poids, une asocialisation, une perte d'estime de soi, etc. On a beau dire que c'est réversible, à un moment c'est compliqué, c'est comme le burn-out. Hein. Donc pour éviter ça, à un moment, il faut aussi se prendre en main. Et il y a des choses, voilà, il y a d'autres opportunités. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est jamais aussi prisonnier qu'on le croit. Et c'est pour ça que je suis allé voir, juste un petit mot là-dessus, un champion du monde de magie. Et je me suis intéressé un petit peu à la vie d'Harry Houdini, qui est le papa de l'escapologie. L'escapologie,
alors, il y a un verbe d'ailleurs. Hein.
Ouais, ouais, c'est. Mais oui, on est tout Houdinize. Ouais. En anglais, ça veut dire s'échapper. Donc, c'est l'art de s'échapper, de s'évader de certaines situations.
Je voudrais qu'on parle avec les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Vous, quelle est votre stratégie pour négocier avec des enfants en crise ? Et là, ça fait intervenir la surprise, finalement.
Eh bien, là, il y a une thérapeute dans le livre qui m'explique que quand on est face à un enfant, par exemple, qui fait une scène, on est à la caisse, il se roule par terre, il pleure, etc., on sait que le calme-toi ne calme pas. Donc, ça dit, oh, mon chaton, calme-toi. L'enfant s'en fiche. En revanche, il va falloir un petit peu sortir de ce qu'on pense, nous, être le comportement logique. Et ce que propose cette thérapeute, qui est une thérapeute, elle travaille sur le couple, elle travaille sur la famille, la relation à l'enfant, elle dit, ben là, faut casser le pattern. Le pattern, c'est quoi? C'est un problème qui tourne en boucle, on produit toujours le même comportement, ça amène toujours les mêmes effets, bon, bref. Et bien là, dans ce cas de figure, je reprends l'exemple de l'enfant de 4 ans, 5 ans qui se roule par terre, plutôt que de lui dire, calme-toi, à un moment, vous allez lui dire, ok, vas-y, expulse en fait toute la colère que t'as, c'est le moment, t'as besoin de faire ça. Et ça, on l'a observé cliniquement. C'est-à-dire, c'est pas tout de suite, mais au bout de 20-30 secondes, le gamin, il réalise que la figure d'autorité vient de lui dire un truc un peu ouf. Un truc pas du tout attendu. Ça, il est surpris par ça. Et d'un coup, il se redresse, et il commence à méditer un peu. Il se tient le menton. Globalement, ils ont cette posture-là. Il dit, mais pourquoi tu me dis ça, maman ou papa, bref, pourquoi tu me racontes ça? Tu devrais pas, toi, figure d'autorité, dire ça. Tu devrais dire de me calmer. Et le simple fait qu'il fasse une sorte de stop travaux affectif, bah, ça le fait sortir, en fait, de son émotionnalité. Et hop, on repart sur quelque chose de plus paisible.
Donc là, on a fait un tour à 180. Là.
Exactement.
Et donc, on a ces ruptures de pattern.
Voilà, alors, on casse
ça,
le pattern.
Mais ça marche une fois, mais est-ce que ça marche sur la durée?
Ah, ça marche, plains-toi, du moment où on le fait de manière sincère et pas, sans être dans l'ironie,
oui, c'est ça,
ou dans le cynisme. Ouais, parce que si on est dans ce registre-là, l'enfant, il est pas bête et il capture ça. Ça marche aussi en couple. Il se trouve que cette thérapeute, Anne Gervais, elle vit avec un ex-négociateur du GIGN. Donc déjà, le couple, il est assez
extraordinaire. Avec un nom de bière.
David Corona. Il dit, avant, il y avait la bière. Après, il y a eu le virus. Bon, bref, il a dit, ouais, j'ai une malédiction.
Il a des stratégies camouloxiennes.
Voilà. Et juste, je vous raconte cette anecdote. Ils ont invité des amis ce soir-là. Et à un moment, il dit un truc qui la blesse. Et elle s'est dit, ok, elle ronge son frein. Il dit, je ne vais pas tout de suite lui rentrer dans l'art. On va attendre un petit peu. Elle attend que tout le monde quitte l'hémicycle. Et elle dit, là, je vais me le faire dans la cuisine. Et là, je vais l'invectiver et je vais lui expliquer voilà, quatre vérités. Et là, elle lui dit, mais pourquoi t'as dit ça? Ça m'a blessé, ça m'a mis en position de gênance. Je me suis senti inférieur, j'étais mal dans mes baskets. Et là, David Corona, donc l'ex-négociateur du GIGN, a cette réplique hyper surprenante qui la désarçonne. Il dit, oui, tu as raison, j'étais con. Mais il le dit sincèrement. Et elle essaie de lui faire redire. Qu'est-ce que tu racontes là? Bien, t'as raison. J'étais con, je m'excuse. Si vous voulez, en fait, un conflit, c'est quoi? C'est quand vous roulez à toute puissance, à toute vitesse vers un mur. Sauf que si ce mur-là, vous l'enlevez, bah vous trébuchez et votre colère trébuche avec. Donc elle a dégonflé d'un coup.
Elle avait rien pour résister, en fait.
Elle avait rien pour résister. Et la stratégie camouloxienne, qui est aussi, qui sort de l'esprit, eh bien, de David Corona, franchement, c'est un super ex-négociateur du GIGN qui est hyper pédagogue, etc. Lui disait, bah, quand on veut un moment.
Oui, quand on veut un moment.
Quand on veut un moment, par exemple, face à un pervers narcissique qui vous embête, quelqu'un qui vous cherche la noise, le désarçonner, eh bien, on va lui tenir un propos incohérent. On va lui dire des choses qui tiennent pas la route. Et là, le cerveau de l'autre, parce qu'il est surpris, veut absolument comprendre. Il veut retrouver le fil de l'histoire, tout ça. Et ce que propose David Corona, c'est dire, ben, au milieu de ce brouhaha d'incohérence, on place une phrase cohérente. Un truc qui tient la route, et c'est vers là qu'on veut que le type aille. Alors lui, il avait affaire à des preneurs d'otages, des terroristes, donc il plaçait cette phrase. D'un coup, le cerveau de l'autre fixe là-dessus, cristallise ça, et va penser qu'à ça. Et donc, on va l'amener comme ça, finalement, vers quelque chose de plus apaisé.
Christophe Hague, on vous écouterait des heures. La suite est dans votre livre, ça s'appelle Le pouvoir de la surprise, même mauvaise. Votre éditeur, c'est Albin Michel. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Christophe d'avoir été avec nous.
Merci Philippe, c'était un plaisir.
Voilà, plaisir partagé. Très belle journée, santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm. Beurre FM, la rediff. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, c'est parti, vous le savez. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. On commente, on décrypte et on analyse l'actualité. Alors, chers amis, en ce jeudi, eh bien, vous savez quoi, je vous ai concocté tout d'abord une petite interview avec une ancienne maire adjointe de la ville de Nanterre, mais surtout aujourd'hui, elle représente la Ligue des droits de l'homme. Elle s'appelle Habiba. Habiba, justement, Habiba Big Dad, qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour nous parler, vous savez quoi, d'un sujet qui nous concerne. C'est le droit de vote des femmes et justement, ça concerne les élections locales. Oui, vaste sujet, on va en parler dans une poignée de minutes. Ensuite, nous parlerons, vous savez, des sujets qui ont touché aujourd'hui, eh bien, notre attention. On reviendra sur cette déclaration, la violence des mineurs. Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a fait beaucoup d'annonces, mais qui tape beaucoup aussi sur les parents et qui alerte les parents surtout. Et surtout, vous savez quoi? Et nous, on en parlera tout à l'heure et on commentera ce sujet d'actualité. Nous parlerons aussi, vous savez quoi? Eh bien, de la conférence Mélenchon-Hassan Rahima avec LFI qui est en, vous savez quoi, avec le ton qui monte justement entre le PS et LFI. Et puis enfin, l'attaque de l'Iran au Proche-Orient, en Israël plus précisément, le Hamas qui juge légitime et mérité l'attaque de l'Iran. Bon, et puis Israël qui n'exclut pas, vous savez, de riposter. 01-53-48-3000, ça c'est votre numéro de station. Vous nous appelez et en toute liberté d'expression. Et on parlera aussi, vous savez, tout à l'heure, du billet d'humeur, le quoi de neuf, avec Pascal Boniface à 19h50. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Habiba Big Dad. Bonjour Habiba Big Dad.
Bonjour Adil.
Comment ça va? Vous allez bien?
Ça va très très bien, je vous remercie.
Ancien maire de la ville de Nanterre, mais aujourd'hui vous représentez la Ligue des droits de l'homme. Alors justement, vous allez nous parler d'un événement qui se déroule très prochainement ici sur la région du 92, me semble-t-il. Et nous allons parler avec vous, vous savez quoi, de ce qui touche beaucoup, c'est-à-dire le droit de vote des femmes et au droit de vote des résidents aux élections locales. Alors ça se passe le 27 avril de 9h à 17h. Parlez-nous-en justement.
Oui, merci Adine. Donc en fait, c'est dans le cadre de la journée internationale du droit de vote des résidents. On organise plusieurs événements. Donc la date choisie, c'est le 26 avril. C'est la 4e édition. Pourquoi on a choisi le 26 avril? Parce que c'est la journée, il y a maintenant 110 ans, où les femmes se sont réunies en 1914 pour organiser une grande votation pour le droit de vote des femmes. Et c'est devenu un symbole partout en Europe, pas que en France, un symbole de la lutte pour l'acquisition du droit, l'acquisition de la citoyenneté. Et donc, cette année, nous allons avoir plusieurs activistes de toute l'Europe qui vont venir et se rendre à Paris pour célébrer cette journée internationale où il y aura plusieurs événements, dont un colloque le 27 avril au Palais du Luxembourg.
Au Palais du Luxembourg, justement. Je disais dans le 92, mais non, c'est pas du tout dans le 92. Je sais pas pourquoi je me suis fixé comme, évidemment, comme adresse le 92. Non, c'est au Palais du Luxembourg, parce que, rappelons-le quand même, c'est sous le haut patronage du sénateur Achim Mellouli. Hein.
Oui, tout à fait. C'est Achim Mellouli, sénateur du Val-de-Marne, qui nous accueille donc au Palais du Luxembourg. Et pendant toute cette journée, en fait, pendant cette journée au Palais du Luxembourg, on aura deux demi-journées où on va traiter donc du droit de vote des résidents, dont on parle déjà depuis plus de 40 ans, et aussi de toute cette démarche historique des droits des femmes pour obtenir le droit de vote. Et en fait, parce c'est un parallèle.
Oui, parce que vous dites « j'y suis, j'y vote », hein, c'est un clin d'œil, hein.
Alors, le collectif qui organise en fait le colloque et ces événements s'appelle J'y suis, j'y vote. Donc, il y a un collectif français qui existe depuis plus de 30 ans. Il a eu plusieurs noms différents, Votation citoyenne, Droit de vote 2014, il y a eu plusieurs noms. Et il a récupéré son premier nom qui est J'y suis, j'y vote, qui regroupe un certain nombre d'associations de défense des droits, aussi des associations de travailleurs, comme on disait à l'époque, immigrés, et aussi des syndicats. Donc l'idée, c'est de pouvoir porter cette revendication de démocratie, en fait, et de citoyenneté pour que les personnes qui aujourd'hui, certes, ne sont pas de nationalité française, puissent participer à la vie locale, notamment aux élections municipales. Chose que d'autres étrangers, dits communautaires, donc de la communauté européenne, ont le droit, eux, juste après 3 mois de résidence en France.
J'ai raison de le rappeler, effectivement, ce colloque au Sénat, rappelons-le, de 9h à 17h, à noter hein, le 22, hein, attends, le 20, il faut s'inscrire où précisément?
Alors, il y a un lien Frama pour pouvoir s'inscrire, on peut le retrouver sur le compte Twitter de J'y suis, j'y vote, et sur le compte Facebook de J'y suis, j'y vote, mais aussi sur un certain nombre d'articles de sites internet de la Ligue des Droits de l'Homme, du MRAP, de ATTAC, de la SPCR et d'autres membres du collectif.
Alors ça se passe le 26 avril à Paris, donc au Sénat. Dites-nous justement, Habiba Bigdad, il va y avoir beaucoup de personnalités qui vont intervenir durant cette journée.
Alors effectivement, donc on va avoir une introduction de deux parlementaires, donc Achim Mellouli, sénateur qui nous accueille, mais aussi Daniel Obono qui est député. L'idée, c'est de pouvoir aussi, à travers cet événement, interpeller les parlementaires qui sont un peu les décisionnaires pour ce nouveau droit, puisque aujourd'hui on devrait avoir un changement de la Constitution pour pouvoir avoir le droit de vote des résidents. Et là, j'ai envie de dire, il faut mobiliser l'ensemble des députés, l'ensemble des sénateurs, quels que soient les partis, pour pouvoir recueillir 3/5 en fait des deux assemblées. Donc on aura donc les parlementaires qui devront introduire cette journée, mais toute la journée on aura bien sûr des membres des collectifs européens, britanniques, allemands, belges. On aura aussi Catherine Vital de Venden, qui est professeure au CNRS, qui travaille sur cette question là depuis plusieurs années. On va avoir aussi Jean-Daniel Lévy de la société de sondage Harris Interactive, qui nous suit depuis plus de 10 ans sur cette question, puisque chaque année on sort un sondage par rapport à l'opinion publique sur cette question. L'année dernière, le dernier sondage qu'on a fait, c'était en février 2023, 68% de la population est favorable. Donc je veux dire que la population a dépassé les politiques sur cette question-là, et d'où nous notre constante mobilisation sur le terrain et puis convaincre du coup les responsables politiques pour pouvoir passer à une autre étape dans l'ouverture de la démocratie. On a pu obtenir le droit de vote pour les femmes, on a pu réduire à 18 ans la majorité pour pouvoir voter. Aujourd'hui, il faut aller plus loin encore pour ouvrir ce droit de vote, non seulement donc aux résidents étrangers européens, mais aussi à tous les autres résidents.
Il y a un enjeu concernant cette journée, j'imagine, un objectif pour vous, Habiba Bigdad?
Oui, nous, notre objectif, c'est que tout le monde puisse se saisir de cette question, que tout le monde puisse avoir les arguments pour pouvoir convaincre les politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a, les gens sont, certains sont pour, mais ne savent pas forcément pourquoi. Certains sont contre, mais sans trop savoir pourquoi. Et l'idée, c'est que de pouvoir faire confronter les arguments, les idées, et de voir ce qui se passe en dehors de la France. C'est une question de citoyenneté, de démocratie, qui se passe en dehors de la France. Et aujourd'hui, France, pays des droits de l'homme, on ne peut pas être encore à la remorque sur ces questions-là.
Une déambulation est prévue, dites-moi, Habiba, justement.
Oui. Hein, c'est... Il y a trois événements. Donc, il y a le 26, donc la journée internationale, où à Paris, à Amiens, à Bruxelles, à Berlin, va y avoir des votations citoyennes, donc toute la journée. On a le colloque le lendemain, le samedi 27 avril, et le surlendemain, donc le dimanche 28 avril, il y aura une déambulation à Paris, sur les sites historiques des votations des femmes de 1914.
Bon, bah écoutez, c'est bien de nous le rappeler en tout cas. Plein de bonnes choses pour vous, Habiba Bigdad, qui organisait donc cet événement du droit de vote des femmes au droit de vote des résidents aux élections locales. On peut toujours s'inscrire ou pas? Oui, hein, j'imagine.
Sûr.
Oui.
Bien sûr, le plus tôt possible, puisqu'on va falloir remettre la liste des participants au Sénat.
Rappelez-nous l'adresse d'inscription.
Alors, l'adresse, vous pouvez la trouver sur le site internet de J'y suis, j'y vote, sur la page Facebook de J'y suis, j'y vote, sur le compte Twitter de J'y suis, j'y vote, mais aussi sur les à la Ligue des Droits de l'Homme, sur le site de la Ligue des Droits de l'Homme, et aussi sur mon site, sur ma page Facebook et mon compte Twitter, Habiba Bigdad.
Eh bien, merci pour toutes ces infos. Merci et bon courage à vous. Ça se passe, ne manquez pas ce rendez-vous samedi 27 avril de 9h à 17h et puis tous les autres jours qu'elle vient de citer. Habiba Bigdad, merci et bonne soirée à vous et surtout bon courage. Hein.
Merci Adil Farkan.
Merci, à très bientôt, 19h10. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Avec autour de ce plateau, vous savez quoi, Pierre-Henri. Bonjour Pierre-Henri, comment ça va?
Bonjour Adil Farkan, ça va?
Très bien, merci infiniment, merci d'être avec nous, le patron de France Fraternité. Comment se porte France Fraternité?
Oh, plutôt bien. Hélas, parce que, évidemment, la solidarité et la fraternité sont au rendez-vous de parcours tumultueux et, d'une certaine manière, de la pauvreté et de la misère.
Oui, vous l'avez bien dit. Europe Okologie Les Verts, représenté par, pour le département du 95, par Abdeslam Itage. Bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Très bien, merci. Je suis ravi d'être là.
Eh bien, écoutez, partagez. Nous sommes aussi avec Hassan Barek. Bonsoir Hassan.
Bonsoir Adil.
Rappelez-nous votre président de l'association.
Absolument. Une fédération d'associations de...
Dans les quartiers populaires.
Dans les quartiers.
Absolument. Le porte-parole du mouvement MDC, comment ça va, monsieur Gamal Amina?
Très bien, et vous?
Tout va bien?
Comme d'habitude.
Vous retrouvez votre chocolat, ça vous fait plaisir?
Très, très bon, ça fait du bien, ça.
Ça veut dire, hein?
Ça rappelle
c'est
bon souvenir.
C'est le chocolat, vous, hein? Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir?
Olé.
Oui, qu'est-ce que ça rappelle comme souvenir?
Ça renvoie à l'adolescence, à l'enfance, à beaucoup de choses.
On en a besoin, hein?
Ouais, clairement.
Oui, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous fait sourire, vous, Pierre-Henri?
Ben non, mais ça reste un chocolat assez banal. Hein.
Oui, tout à fait.
Je suis sûr qu'il aime bien les chocolats de marque.
Ouais.
Non, c'est pas le chocolat en général, que le lait au chocolat, c'est très
bien. Ah, que le lait au chocolat. Voilà.
En fait, c'est le lait. C'est plus le lait que le chocolat.
Bah voilà,
absolument.
Messieurs,
bon, ça c'est une information vraiment très importante.
Essentielle. Ah, sinon on n'avance pas.
Parlons de sursaut d'autorité. Justement, la violence des mineurs, il a décliné toute une série d'annonces, le Premier ministre, M. Gabriel Attal, et il s'est adressé surtout aux parents, les parents des missionnaires. Vous savez quoi? Il a beaucoup parlé des parents, il a parlé aussi des élèves perturbateurs. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce discours? Et fallait-il s'adresser essentiellement et beaucoup aux parents? Parce que là, évidemment, responsabiliser les parents démissionnaires. Pierre-Henri, que doit-on comprendre?
Bah, d'abord, je voudrais rappeler...
Et ils nous écoutent, les parents.
Oui, je voudrais rappeler aux auditeurs que le nombre de lycéens et de collégiens, c'est un peu plus de 6 millions en France. Le nombre de lycées, c'est un peu plus de 10 000, 10 500. Et que, de fait, il y a environ 1% des établissements scolaires qui sont frappés par une certaine violence qui est d'ailleurs totalement inacceptable. Mais il ne faut pas faire passer des faits divers pour des faits de société. En réalité, c'est ce que fait en permanence l'extrême droite et un certain nombre de médias conservateurs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai écouté le Premier ministre et j'ai écouté son catalogue qu'il a bien voulu égrener pendant 40 minutes en parlant de sanctions. Mais enfin, je rappelle que l'école, c'est l'instruction, la famille, c'est l'éducation, et que punir, c'est parfois nécessaire, mais il faut aussi prévenir. Et pour prévenir, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut mettre les professeurs, donc l'institution scolaire. Il faut mettre les parents, bien évidemment. Il faut mettre l'aide sociale à l'enfance. Il faut mettre la justice pour trouver une bonne réponse. Puis enfin, il y a quelque chose qui m'a un peu fait rire, parce que il dit « Je veux que dorénavant, les perturbateurs, on marque sur leur brevet, leur CAP, leur bac, voire sur Parcoursup, fauteur de troubles. » Mais enfin, le Premier ministre n'a jamais mis le nez, les pieds dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, elle se charge de polir le parcours des perturbateurs. Et il faut plutôt les féliciter, ces perturbateurs, d'avoir eu enfin leur diplôme, oui, et puis de pouvoir poursuivre leur parcours. Absolument. Et moi, ça, véritablement, je dis, ben, c'est de la bêtise en barre.
Eh ben, on continue d'en parler justement, et je voudrais qu'on revienne sur le fait de responsabiliser les parents démissionnaires. Ça aussi, est-ce que vraiment fallait-il
famille, bon, il faut parler des familles monoparentales, etc.
Non, c'est très compliqué. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après, justement, et on continue le tour de table. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, la rediff. La rediff. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les Informés avec Pierre-Henri, avec Abdeslamitesh, avec Hassan Barek et enfin avec Gamal Abina. Tiens, je vous donne la parole, Abdeslamitesh, justement, est-ce que il fallait rappeler ce sursaut d'autorité en permanence aujourd'hui, et notamment pointer du doigt les parents. Est-ce que les parents sont aussi responsables et qu'il y a ce rappel d'autorité et que ces parents restent aujourd'hui démissionnaires?
Oui, enfin, je pense que c'est plus une épreuve de force du gouvernement que de montrer un peu ses muscles et prétendre qu'ils sont un petit peu dans la répression.
Peut-être qu'il y a des parents
et qu'ils sont en mesure de le faire, mais d'abord, les syndicats ne sont pas du tout d'accord avec ce type de méthode. Ça manque de concertation et en effet, le Premier ministre a besoin de montrer qu'il sait aussi être autoritaire pour pas être débordé et dépassé par ses ministres, et entre lui et le président de la République a besoin de montrer aussi ses muscles et prouver qu'il est capable d'appuyer sur le bouton nucléaire. Vous voyez, on a deux personnes qui sont en quête justement d'affirmation et en effet, moi je rejoins Pierre-Henri sur plusieurs points. En effet, aujourd'hui la place des parents est essentielle, elle est incontournable, elle est déterminante.
Est-ce qu'ils sont démissionnaires
dans l'éducation des enfants? Ils sont
est-ce
aussi,
qu'ils sont défaillants?
Ils sont aussi
est-ce qu'ils sont dépassés,
en difficulté, et les familles monoparentales, quand on est une maman, quand on élève trois enfants, eh bien on peut quand même reconnaître qu'on peut être dans la difficulté aujourd'hui. On voit bien la difficulté à remplir le frigo, c'est aussi un vrai problème. Et malheureusement, assez souvent, la variable d'ajustement, c'est le sport, c'est le loisir. Et on se retrouve avec des enfants qui, parfois, traînent plutôt que d'être à leur cours de judo ou de lutte. Et c'est bien ça le problème. Ou alors, au tennis. Alors, c'est tennis de table. Et vous voyez, et c'est bien ça le problème. C'est que assez souvent, on incrimine les parents, on leur reproche beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de parents démissionnaires. En effet, ça arrive également. Mais vous savez, il y a le facteur environnemental qui joue énormément. Et lorsque l'on est comme ça, dans une situation de difficulté, la difficulté amène la difficulté, la paupérisation des quartiers. Ou lorsqu'une personne réussit, elle quitte le quartier. La personne qui revient, qui arrive, elle est plus en difficulté que la personne qui l'a quitté. Les établissements scolaires accumulent les difficultés. On préfère mettre de l'argent, et vous savez que les collectivités donnent de l'argent aux établissements privés, malheureusement pas assez dans le public, et c'est bien le drame. Aujourd'hui, on a un système scolaire qui a échoué, et on préfère montrer les autres en disant vous avez fauté, plutôt que de se dire faire son mea culpa et admettre qu'il n'y a pas assez d'argent investi dans l'éducation.
Alors Gamal Abidine, justement, parce que le premier ministre Gabriel Attal, il dit quand même, il appelle à réprimer les plus largement et plus sévèrement, donc là il fait référence aux parents. Les parents sont défaillants, les parents sont dépassés. Est-ce que c'est aussi parfois aussi une réalité?
Là, je vais commencer à m'énerver, parce qu'il y en a ras-le-bol de ces sales discours d'extrême droite qui sont partout dans la société. On va commencer par premier élément. Premier ministre qui parle à la place du ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi, ce ministère? Il est premier ministre, il doit gérer les ministres et pas s'occuper des ministères qui lui sont sous sa dépendance. Premier